RMC, 19h-20h, l'After Tour.
Christophe Cessieux.
Bonsoir à tous, bienvenue à Mur de Bretagne, l'Alpe d'Huez des Bretons, où l'on a assisté aujourd'hui à une étape incroyable avec une ferveur jamais démentie. La Bretagne est vraiment une terre de vélo. On en a eu une nouvelle confirmation aujourd'hui. La victoire aussi d'un certain Tadej Pogacar, un petit coureur pas mal, pas mauvais, qui a réussi un bon début de tour. Déjà deux victoires d'étape, deux deuxième place, un maillot jaune, un maillot arc-en-ciel depuis un moment sur les épaules, et surtout une belle avance au classement général. Cette première partie de toute cette première semaine de tour est particulièrement réussie pour Tadej Pogacar. On l'écoutera dans quelques instants. Est-ce que le suspense pour le tour s'est définitivement envolé avec le nouveau succès aujourd'hui de Tadej? Eh bien, nous répondrons à cette question. On reviendra aussi sur la belle première semaine de la formation Arkea. Kevin Vauclin est toujours troisième au classement général. Et puis, on a vu aujourd'hui un jeune Breton nommé Kostiou qui s'est mis en évidence en franchissant la ligne la première fois à Mur de Bretagne. En tête, toute l'équipe de l'After Tour est à mes côtés, Pierre-Yves Leroux, Jérôme Coppel, Jérôme Pinault. Messieurs, bonsoir.
Bonsoir Christophe.
Bonsoir à toutes et à tous.
Bon, ça a été bien aujourd'hui? Vous êtes régalé? Toi, t'étais sur tes terres, Pierre-Yves, évidemment. Là,
spectacle incroyable. On n'avait jamais vu autant de monde au bord des routes. Hein. Dans le Nord, c'était super. En Normandie, c'était super. Mais là, c'est autre chose.
À Bretagne, quoi,
bien sûr, bien sûr. Ouais. Là, c'est le centre du monde.
Ça n'a pas d'équivalence.
Bien sûr.
Le cœur du cyclisme français et ici mondial bat en Bretagne.
Jérôme Coppel, tu as une réponse à apporter à ça?
Il est mutique.
Dans les Alpes, il y a beaucoup plus de monde que ça. Donc je ne suis pas du tout impressionné par le monde qu'il y a eu aujourd'hui dans l'Alpe d'Huez breton.
Hein. Alors il n'y a pas que des Savoyards dans les Alpes, c'est ça? Alors c'est ça. Il y a beaucoup de Bretons quand même.
Voilà, il n'y avait pas que des Bretons.
Il n'y avait pas que des Bretons.
Non.
Il y avait des Normands aussi.
Non, il y avait encore beaucoup de drapeaux belges, nous, quand on est passé en voiture. Voilà, belges, hollandais, il y en a qui suivent tout le tour. Hein.
Vu la bouille de certains spectateurs et de la plupart des spectateurs dans cette dernière montée, les Bretons, je pense qu'il y avait quand même beaucoup de Bretons.
Hein. Les Bretons vont mettre de l'après-soleil ce soir. Hein.
Oui, et vont devoir boire de la planquette à partir de demain.
Par où on est passé aujourd'hui.
Exactement, la première fois qu'on entend parler d'eau minérale sur la route du Tour en Bretagne.
Christophe, surtout toi.
19h05, on va donc dans un instant revenir sur ce qui s'est passé. On va faire un petit détour également par Wimbledon avec la deuxième demi-finale entre Yannick Sinner et Novak Djokovic. Eric Salio est avec nous. Bon, Eric, on attendait une deuxième demi-finale très disputée. C'est pas le cas pour le moment. Hein.
Non, c'est pas le cas. C'est un Yannick Sinner qui est dominateur, qui mène 6-3, 5-3 et qui est au service pour tenter de mener déjà deux manches à zéro alors qu'on a à peine dépassé l'heure de jeu. C'est pas un grand Djoko. Je pense qu'il est pas à 100%. Et donc Yannick Sinner se rapproche tout doucement d'un gain de 2-7-0 puisqu'il y a 30-15 sur la mise en jeu de l'Italien.
On va rester avec toi pour vivre ces points
avec plaisir.
Importants.
Ouais, c'est ce que je disais avec Flora et Sarah tout à l'heure. Je le regarde, hein, Novak. C'est pas le Novak habituel. Il a beaucoup de difficultés dans les déplacements latéraux et j'ai peur que sa chute d'il y a deux jours ait eu des conséquences malheureusement graves. C'est dommage pour le spectacle parce que, et puis bon, d'un autre côté, Yannick Sinner est vraiment impressionnant. Il a mis une cadence folle d'entrée. Novak Djokovic n'a pas suivi et donc le score enfle puisqu'il y a déjà balle de 7. Voilà, c'est fait 2-7-0 pour Yannick Sinner sur un ace. 2-7-0 pour le numéro mondial. On se rapproche d'une dream final entre Alcaraz et Sinner comme à Roland.
Ah bah là, on n'est pas couché hein, si les deux s'affrontent dimanche. Si c'est...
Et le kiné arrive pour Novak Djokovic. Ouais, c'est bien ce que je pensais. Ouais. Il y a un truc qui va pas.
Ouais. Très bien. Bon, tu nous tiens au courant évidemment, Eric, et on reste avec toi en direct de Wimbledon, 19h07. Vous l'avez donc vécu cet après-midi. Le succès de Tadej Pogacar au cours de cette septième étape, remportée donc par le Slovène.
Précédemment dans l'intégral tour sur RMC.
Salut tout le monde. Ah bah là, avec Timarco, on est bien. Moi, je suis dans mon élément. Des drapeaux bretons partout, de la galette saucisse, du maillot du Stade Rennais. Ça peut pas être mieux comme journée. En plus, le soleil breton, évidemment, parce qu'on arrive en Bretagne, il fait toujours beau. Une très très belle journée qui s'annonce, messieurs.
Et bien, on parle plus du Stade Rennais sur le Tour de France que pendant la saison, finalement. C'est pas mal. On va arriver dans un instant... dans une autre commune bretonne du nom de Fignac. Ouais. On y arrive à l'instant même. C'est la patrie de Bernard Hinault.
Le grand spectacle est lancé à Mur de Bretagne. La côte du village vient d'être passée par Ewen Kostiou en premier dans le groupe de tête. Ça explose avec cette attaque. Ewen Kostiou possède 47 secondes d'avance sur le peloton emmené par la Visma Lease Bike.
Et le peloton est en train de se rapprocher inexorablement du coureur breton de la formation Arkea. Alors que Kevin Vauclin semble avoir du mal quand même. C'est
difficile. Et Tadej Pogacar qui va démarrer. Il se dit, il faut que j'attaque vite parce que sinon, ils vont récupérer. Jonas Vingegaard est bien. Il est dans la roue. C'est trop court pour Remco Evenepoel. Ça va jouer entre les deux hommes. Est-ce que Tadej Pogacar est plus costaud que Vingegaard? Il est collé. Il est collé, Vingegaard. Est-ce qu'il va réussir à attraper la victoire de Tadej Pogacar devant Vingegaard? Tadej Pogacar, champion du monde, champion en Bretagne. Il s'impose à Mur.
RMC, l'After Tour.
Tadej Pogacar qui s'impose donc ici à Mur de Bretagne. C'est son deuxième succès sur les routes de ce Tour 2025. Ajouté à cela deux deuxièmes places, un maillot jaune.
Ça fait des bonifs.
54 secondes d'avance sur Evenepoel, une 17 sur Vingegaard. La première semaine de Tour est plutôt réussie, non, Pierre-Yves?
Oui, quand je dis dans le commentaire en live, Vingegaard est collé, il est collé à la roue, hein. Il n'est pas oui. collé à l'asphalte, collé à la il a réussi à tenir aujourd'hui, mais malgré tout, c'est vrai que sur cette première semaine, il est le perdant du match entre les deux.
Oui, parce qu'il est battu à chaque fois, en fait.
Ben oui, il est battu à chaque fois. On n'a même pas encore commencé la montagne, en disant, je sais pas, l'altitude la plus haute, quoi. 350 mètres, 400 mètres d'altitude. Et Tadej Pogacar a déjà deux victoires d'étape. On n'a pas encore attaqué la haute montagne. Pour l'instant, voilà, Tadej Pogacar et son équipe sont les grands vainqueurs. Vingegaard, bon, il a perdu la plupart de son temps sur le chrono. Donc il est encore là, Mur de Bretagne. Ça veut quand même dire qu'au chrono, c'était certainement jour 100. Parce que sinon, il n'aurait pas pu suivre aujourd'hui. Il ne mettrait pas son équipe à la barre à chaque fois. Donc je pense qu'il y a eu un vrai problème le jour du chrono à Caen, mais il donne des signes rassurants, même si on rappelle qu'il y avait vent de face à l'arrivée, il n'a pas du tout réussi à ne serait-ce que remonter au pédalier de Tadej Pogacar. Pogacar pour le moment est au-dessus, mais Vingegaard donne des signes rassurants.
Ouais, alors rassurant, même si on espérait secrètement qu'il y ait un peu plus de suspense à l'issue de cette première semaine, que Vingegaard peut-être prenne un peu d'avance sur Pogacar. C'est pas le cas, Jérôme.
Bah, on attendait presque que Jonas Vingegaard regagne du temps un peu sur Pogacar sur le chrono, justement, parce qu'il avait montré sur le dernier Dauphiné qui lui était supérieur sur le chrono. Bon, c'était un jour sans ce jour-là pour Pogacar au Dauphiné. Et cette semaine, sur le chrono du Tour, Vingegaard a connu certainement un jour moyen. Alors, choix de matériel étrange, conditions physiques pas au mieux. On l'a vu, le Danois à la peine sur le chrono. Sinon, quand on regarde les dernières étapes difficiles, à chaque fois que Pogacar a démarré, Vingegaard était collé à la roue, sauf vers la rampe Saint-Hilaire l'autre jour à Rouen. Mais il a su se ressaisir et revenir avant le sommet. Donc, quelques motifs d'espoir quand même sur la condition physique de Vingegaard. Ça maintient un petit suspense, même si à chaque fois qu'ils arrivent à deux, Pogacar qui gagne.
Il y a un vrai suspense. Franchement, ouais, tu y crois, regarde-moi dans les yeux. Regarde-moi au fond des yeux, s'il te plaît. Ah, bah non, avec cette tête-là, c'est pas possible.
Mais on en parlera après, mais peut-être qu'il y a une partie du suspense qui a été relancée, malheureusement, à cause d'une chute. On en parlera après.
On va en parler,
et ça, on gardera les forces en présence. Moi, j'ai toujours, par contre, une grosse interrogation sur la tactique de Visma Lisebike. Je comprends pas leur tactique depuis deux jours. Je suis pas le seul. Même Tadej Pogacar comprend pas la technique. La tactique non plus. Aujourd'hui, ils ont encore roulé pendant 20 bornes. On s'est dit, OK, Vingegaard va au moins essayer quelque chose. Non, en plus, il roule tout le temps, mais il tente rien.
Est-ce qu'il bluffe en disant on a un plan, on a une tactique.
Oui, mais chaque fois, on dit Schleck avait un plan aussi, ça n'a pas marché. Il y en a toujours eu plein qui ont eu des plans, ça n'a pas marché.
Par le passé, ils ont eu des plans.
Oui, mais encore au Giro, ils ont très bien joué le coup au Giro quand Simon Yates a gagné le Giro sur la dernière étape avec Wout van Aert à l'avant. Mais on dirait que Visma Lisebike sont les coéquipiers de Tadej Pogacar. En fait,
il roule et c'est Tadej Pogacar qui gagne. On dirait les Movistar de la grande époque. Oui,
exactement. C'est un peu à ça que ça m'a fait penser aujourd'hui. Exactement.
Est-ce que vous avez une idée du retard de Vingegaard au soir de la 7e étape l'an passé?
Ça devait être à peu près comme ça, non?
Un peu moins quand même, non?
C'était pareil.
Ah, pareil. Ouais,
une 17 contre une 15. Donc, c'est la même chose au soir du chrono de Gevrey-Chambertin.
Ah bon, donc
et
on peut espérer.
À 6 minutes, donc ça nous laisse du coup espérer.
Mais on peut espérer que dans le Massif Central, il nous fasse la même qu'Oliron l'année dernière.
Oui, rappelez-vous, Oliron, on a parlé de l'éventuelle bascule. Hein.
Bien sûr.
Moi, j'ai écouté attentivement vos commentaires, messieurs. Christophe avait conclu la journée sur
«
c'est la bascule, est-ce que le Tour n'est pas en train de basculer ?»
Ah non, mais
on y croyait
moi,
tous.
Moi, le premier, je l'ai dit.
Moi aussi, je l'ai dit. Mais quand tu dis quelque chose, moi, je répète toujours pareil.
Bien sûr, mais là, les écarts que tu nous donnes, ça ne va pas vraiment dans le sens de Vingegaard.
Mais le Tour de France l'an dernier était moins difficile au départ.
Ok, peut-être, mais l'an passé, Vingegaard, on rappelle qu'il revenait d'une chute, donc finalement, il était mieux mieux que ce qu'on pensait. Là, il a chuté à Paris-Nice. Depuis, il a pas couru. Enfin, il a repris au Dauphiné, mais presque pas couru. Il a fait son stage et il est pas vraiment en meilleure posture que l'année dernière, alors qu'il revenait d'une chute. Le tour est encore long, mais bon, Tadej Pogacar est toujours bien deux jambes au-dessus des autres.
Hein. Alors, la tactique des Visma laisse tout le monde sceptique, même Tadej Pogacar qui ne comprend pas bien ce que font ses adversaires.
Non, actually, they did not annoy me.
Non, I think ils ne m'ont pas énervé. Ils ont plus énervé d'autres coureurs qui voulaient prendre l'échappée. Parce que si Visma essaye de prendre l'échappée, bien évidemment, il y a peu de chances que ça aille au bout. Voilà, ils ont juste rendu le début d'étape beaucoup plus dur pour tout le monde dans le peloton. Bon, nous, ça ne nous dérangeait pas s'ils prenaient l'échappée ou s'ils attaquaient dans le final. Nous, on a gardé le rythme qu'on s'était fixé dès le départ et on a contrôlé notre rythme et notre course.
Voilà, t'as des... alors c'est bien l'interview de Pogacar ce soir, ça, vous avez un doute ?
Un doute.
Moi, j'en ai pas.
Ouais, moi non.
C'était hier.
Mais bon, ça peut marcher pour.
Ça ressemble
à aujourd'hui, oui. Finalement.
Aujourd'hui, disons qu'aujourd'hui, là.
Ils n'ont pas pris l'échappée, Wiesmann.
Ils n'avaient personne à l'échappée. Et ils ont surtout roulé pour venir en contre GG, pouvoir trouver peut-être un argument. Aujourd'hui, au moins, ils ont roulé pour la gagne.
Exactement.
Hier, c'était vraiment pour pas grand-chose.
Hier, c'était pour que Pogacar ne perde pas le maillot jaune, pour qu'il roule aujourd'hui. Ouais. Finalement, ça n'a rien changé à la fin aujourd'hui. Du film. Ils ont quand même roulé.
C'est vrai que si on fait le plan d'hier, de rouler fort, pour dire, toi, le petit Slovène, on va te la mettre, et on va te permettre de ne pas te permettre de perdre le maillot, on va rouler, tu vas le garder, ce maillot. Si c'est pour aujourd'hui... eux rouler toute la journée ou la grande partie du final, je vois pas trop non plus les plans. Mais rappelons quand même que Visma Lisebike ont à leur tête un génie. leur patron est un génie, donc ils savent ce qu'ils font, c'est sûr.
Ça y est.
Vous voulez entendre un Pogacar un peu plus,
D'aujourd'hui,
frais, un peu plus frais. Voilà, c'était tout à l'heure à l'issue de son deuxième succès qui fait le bilan sur cette première semaine. Pogacar.
Yeah, I mean this first week went amazing.
Cette première semaine, c'est très bien passé pour nous. Si on regarde les résultats.
But yeah, we were ready for it.
Mais on était prêts.
But yeah, of course you don't think that
bien évidemment, on ne se dit jamais qu'on va gagner deux fois sur les sept premiers jours.
At least us, we come a bit with the reserve and
nous on vient un petit peu sur la réserve. On pense d'abord à la survie.
We take our chances in the
end. Et puis on saisit nos opportunités s'il y en a.
On pense à la survie. Bon, ça va, au niveau de survie, ils sont plutôt tranquilles quand même.
Ouais,
ça va. C'est, ce côté-là.
Pour survivre, ça se passe bien.
Alors, malgré tout, il y a quand même une mauvaise nouvelle pour Tadej Pogacar. C'est la chute de son premier lieutenant, João Almeida, qui avait jusque-là réussi une saison incroyable, encore vainqueur du Tour de Suisse il y a quelques jours, qui a vraiment été considéré comme le maillon fort de Pogacar, notamment dans la montagne qui va arriver dans quelques jours. Almeida, victime d'une chute... il n'est pas le seul à avoir chuté lourdement à quelques kilomètres de l'arrivée. Pierre-Yves, est-ce qu'on a des nouvelles du portugais de la formation?
On a quelques nouvelles. Tu vois, ils sont arrivés il y a presque 3 heures. On vient de recevoir à l'instant le bilan médical complet de toutes les chutes, parce qu'il y en a eu beaucoup. Je vous donne les éléments précis du bilan médical. Donc, pour João Almeida, c'est traumatisme du doigt gauche, érosion multiple. Moi, j'ai revu les images. Il avait le dos râpé, il avait le genou gauche et le petit doigt donc gauche qui était ensanglanté, le cuissard qui était déchiré sous la fesse gauche en sang. On s'inquiète un petit peu pour le poignet. Il devait passer des radios, João Almeida. On a évidemment beaucoup de garçons qui ont été touchés. Donc je vous fais la liste d'abord médicale avec le bilan et puis je vous donnerai les temps. Santiago Buitrago, traumatisme crânien, protocole commotion. Jack Egg, traumatisme crânien, protocole commotion. Jack Egg a abandonné. Traumatisme poignet gauche pour Eddie Dunbar également. Et Wayne Costa dont on a parlé, dont on reparlera, érosion multiple, petite plaie du genou gauche et puis traumatisme du doigt droit pour Lorenz Rex. Donc vous voyez, ça fait beaucoup de monde. Et dans cette liste, je ne vous cite pas tout le monde, mais il y a d'autres garçons qui ont été pris dans la chute et qui perdent pas mal de temps. Henrik Maas est à l'arrivée à 51 secondes, Ben Hilly 1:45, Steph Kras 9 minutes 08.
Mais Steph Kras, il n'est pas tombé. Steph Kras, il s'est écarté dans le premier passage de mur.
Avant même.
Dans le village.
Donc
le
lui,
village.
C'est un coup de bambou, lui.
Exactement.
Coup de bambou.
Bambou.
Voilà. Buitrago, c'est 13 minutes 13. Guillaume Martin, 2 minutes 17, lui était dans la...
Au lycée Grosse Chute
aussi. Ouais, et Louis Barré, qu'on a vu aussi lui tout râpé,
bien bûché, hein.
Tout râpé ouais. Au niveau de la fesse. Donc ça, c'est des garçons qui vont avoir du mal à récupérer dans les jours qui viennent.
On a tous un côté préféré pour dormir. J'espère que celui de Louis,
c'est
ce
pas,
n'est pas le côté gauche. Parce qu'il est râpé, il ne pourra pas dormir de ce côté préféré.
Alors après, je trouve aussi que les cuissards, les combinaisons sont tellement peu épaisses aujourd'hui que ça protège de rien du tout.
Ça change toujours été par rapport à la...
Ça a toujours été. Là, c'est tombé vite hein, quand même. C'est tombé très vite. C'était un petit groupe, mais ça allait très vite en direction de la deuxième montée de mur. Et c'est tombé vraiment très fort, très vite et très fort. Là, peu importe ce que tu as comme épaisseur de cuissard, ça ne va rien changer. Hein, ça ne va vraiment rien changer. Mais là... Dans, entre guillemets, leur malheur, il y a deux jours un petit peu plus faciles, normalement, des étapes
espérant
de sprinter.
Qu'il n'y ait pas de vent.
Voilà, en espérant qu'il n'y ait pas trop de vent, qu'il n'y ait pas trop de castagne. Et voilà, lundi, pour la dernière étape, enfin, la première très difficile avant la journée de repos, peut-être qu'ils auront pu récupérer tant bien que mal.
Sauf qu'on le sait souvent et trop souvent, et on le voit, on le constate, que les étapes sur les massifs intermédiaires, comme celle de lundi, sont parfois terribles pour les groupes éto. Et c'est souvent là que les coureurs sont éliminés parce que c'est pas si dur. Donc, quelques non-grimpeurs s'accrochent, ça va encore plus vite. Et c'est là qu'on se retrouve souvent en difficulté. Après deux jours compliqués pour dormir, vivement mardi pour ses blessés. Mais lundi est une journée à haut danger.
C'est dans trois jours, hein, ça va arriver vite. C'est souvent 48 heures, 72 heures à la gamelle que.
Exactement. Tu le plus 48 heures après, ça reste encore une étape de plaine. Mais comme le disait Jérôme, le massif central, c'est compliqué. C'est 4500 mètres. De dénivelé positif lundi, c'est quasiment une étape de montagne, on est sur un massif intermédiaire, mais c'est aussi dur qu'une vraie étape de montagne, sauf que dans les grandes étapes de montagne, c'est dur dans toute la montée, dans les longs cols, mais après tu peux au moins récupérer dans les descentes. Le massif central, c'est des petites routes souvent granuleuses, droite, gauche, t'es toujours en prise, t'as pas un mètre de plat, lundi ça va être un gros chantier, s'ils ont pas récupéré, ça risque d'être très compliqué.
On regardera quand même la liste des signatures demain matin, parce qu'il y a aussi des garçons, enfin un garçon qui est aujourd'hui a abandonné, c'est Mattia Cataneo. Donc il est possible aussi que demain matin il y en ait certains qui ne soient pas au départ.
Et puis pour revenir à Joao Almeida, des fois les blessures, on les constate aussi que le lendemain, parce qu'avec les hématomes et tout, radio, tu ne peux pas vraiment tout voir, donc peut-être que le Portugais demain matin devra repasser par les radios pour voir s'il n'y a rien de plus grave, notamment au poignet.
Alors, en cas d'abandon ou en cas de blessure sérieuse pour Almeida, c'est vraiment un gros manque pour Tadej Pogacar. Je le disais, c'est son premier lieutenant, notamment en montagne. Il comptait énormément sur lui. On l'a vu d'ailleurs très inquiet, Tadej Pogacar tout à l'heure. Hein. Il n'était pas souriant comme il l'est d'habitude après une victoire. Il faisait la tête.
Ouais, la première réaction a été c'est bien pour l'équipe, mais c'est un gros coup dur. C'est une belle victoire, mais c'est un gros coup dur pour l'équipe. Parce qu'on a perdu Joao, il est blessé. Quoi qu'il arrive, même s'il n'y a pas de fracture, avec la vitesse avec laquelle ils sont tombés, Almeida ne s'en sortira pas indemne. Il va certainement souffrir. Et un coureur qui est tombé se met parfois quelques jours, quelques étapes à s'en remettre. Et on va vite avoir besoin de Joao Almeida. Donc effectivement, c'est une grosse perte parce que on a regardé tout à l'heure en préparant l'émission avec évidemment beaucoup de professionnalisme comme d'habitude avec Jérôme quels étaient les forces en présence pour la haute montagne et qui est face à qui dans l'équipe UAE et l'équipe Visma.
C'est un comparatif.
On a fait un peu un comparatif,
un tableau.
Et donc ça donne avec
Excel.
Mon associé Jérôme,
quatre classeurs.
Alors ça donne quoi, mon GG?
Ça donne que les forces se déséquilibrent fortement. Parce que si on prend Tadej Pogacar en imaginant qu'Almeida soit un peu dans le dur, on a des bons grimpeurs quand même, Pavel Sivakov, le Français, Marc Soler, mais c'est pas des coureurs qui seront là vraiment dans la dernière difficulté si Visma Liseberg viennent à mettre en route. Donc ils auraient plus qu'Adam Yates. À condition qu'il soit dans une bonne forme.
Sachant qu'il est souvent irrégulier.
Il est souvent très irrégulier, même si l'année dernière, il a quand même, c'était le lieutenant numéro 1 de Tadej Pogacar. Et si on prend Visma Liseberg, ils ont bien sûr Matteo Jorgensen, très bon. Simon Yates, on l'a vu encore aujourd'hui, très fort, échappé hier, aujourd'hui très fort, vainqueur du Giro. Et j'ai mis des points d'interrogation à côté de Sepp Kuss, parce qu'on sait pas vraiment où il en est, Sepp Kuss. Avant, c'était le meilleur lieutenant du monde, mais potentiellement, ils en ont deux très bons avec Simon Yates et Jorgensen, et Sepp Kuss qui, s'il retrouve ses jambes...
Qui décroche vite pour l'instant.
Pour l'instant, qui décroche très vite, qu'on n'a pas vu.
Mais peut-être que c'est prévu du côté, je vous le rappelle, leur patron est un génie. Hein,
ça fait trois coéquipiers, normalement, si on inclut Sepp Kuss, très fort pour la haute montagne, et si Joao Almeida est pas bien, on n'en a vraiment qu'un seul du côté de Tadej Pogacar. Mais quelle serait la stratégie de Visma? Ça serait rouler pour épailler les coéquipiers de Tadej Pogacar. Ce petit jeu-là, si Tadej Pogacar a pas un ennui mécanique ou quoi, la pédale, je vois pas vraiment comment ils vont le sortir. Mais ils auraient plus que cette solution.
Il y a un garçon qui a fait un beau boulot aujourd'hui, c'est Narvaez. Quelles sont ses limites?
En haute montagne, Narvaez. C'est sur des circuits comme l'ICI. On peut l'attendre lundi encore aux côtés de Pogacar. Mais dès que ça touche à la haute montagne, Narvaez disparaît très vite. Non, je pense qu'aujourd'hui, avec la chute d'Almeida, on a perdu pour un moment, je l'espère, pour l'équipe UAE, voire jusqu'au bout du tour, l'équivalent d'Jorgensen. C'était, n'oublions pas qu'on en a parlé, de Joao Almeida, sur une grosse domination de Pogacar, on le voyait peut-être troisième du tour. Là, ouais, c'est fini. Ouais,
je l'avais mis sur le podium, moi. Bon.
Ah ouais, mais ça, on pouvait te faire confiance. Oui, au niveau des pronostics.
Je te mets toujours ta race, quand même. 19h23, nous allons partir à Wimbledon, faire un petit tour pour retrouver Eric Salio pour voir si Novak Djokovic se rebiffe, un peu comme moi par rapport à Pierre-Yves Leroux, Eric.
Eh bien oui, il se rebiffe, il t'a écouté. 3-0 pour Novak Djokovic, c'est un peu la surprise dans ce troisième set. Il a fait venir le kiné à la fin du deuxième, le kiné lui a manipulé la zone de l'adducteur gauche, ça lui a arraché des grimaces, mais peut-être que cela fait du bien. Et puis d'un autre côté, Sinner s'est peut-être un peu relâché, il a commis des énormes erreurs sur sa mise en jeu tout à l'heure, donc pour se faire breaker. Donc cette partie est en train d'être relancée, un peu à la surprise générale. Donc 2-7-0, Sinner, oui, c'est quand même l'essentiel, hein, 6-3 en un peu plus d'une heure, mais 3-0 Djoko dans le troisième set.
Le suspense est relancé comme sur le Tour de France. Tiens, allez,
on a peut-être une solution pour Joao Almeida.
Ouais,
d'aller voir le kiné de Djoko.
Aller voir le même doc que celui de Djoko. C'est marrant quand il passe entre les mains du kiné. Ça le...
Un kiné, ça repart.
Ah, un kiné, ça repart. Toute cette semaine, messieurs, l'After Tour et Jules, partenaire officiel du Tour de France 2025, vous gâtez, oui, à l'occasion de la grande boucle, tentez de remporter une carte cadeau de 50 euros, valable dans l'une de nos 400 boutiques, et un t-shirt de la collection exclusive Jules Tour de France 2025. Pour remporter vos cadeaux, Jules, vous envoyez le mot
Sprint.
Bravo, vous
avez bien retenu. Sprint. Comment ça s'écrit?
Sprint. S-P-R-I-N-T, tu savais pas?
Ah si, voilà. Et maintenant je sais.
À quel numéro?
Au 7-32-16.
Sprint au 7-32-16. Vous êtes
Jules,
vous êtes
la marque de vêtements engagée et accessible, partenaire officiel du Tour de France 2025, vous gâte sur RMC. Jules. Et en plus, vous êtes beau.
Vous êtes beau, chef.
Ça nous fait plaisir quand on entend ça.
On fait un petit coucou à un certain Jules qui aurait dû être dans le mur de Bretagne et qui a eu un petit souci physique, qui n'a pas pu venir.
Ah
voilà.
Ouais. Bon,
eh ben, il est beau.
Il est beau, bien sûr.
Il est très beau, comme tous les Jules. 19h25, on revient dans un instant. On va s'intéresser à Mathieu Van Der Poel. On va s'intéresser au Français, Kevin Vauclin. Que peut-il espérer dans ce tour après une première semaine? Il est troisième au général, c'est pas rien. Et puis on va revenir sur la journée de rêve vécue par Ewen Kostiou, le jeune breton de la formation Arkéa. À tout de suite.
RMC, 19h20, l'After Tour.
Christophe Cessieux.
En direct de Mur de Bretagne, au terme de la 7e étape du Tour de France, remportée de main de maître par Tadej Pogacar, nouveau maillot jaune de ce Tour de France. De temps en temps, il confie son maillot jaune à Mathieu Van Der Poel, mais là, il l'a récupéré tranquillement aujourd'hui en s'imposant au sommet ici à Mur de Bretagne. Le classement général nous met donc Pogacar en tête et son dauphin se nomme toujours Remco Evenepoel. 54 secondes de retard pour le Belge. Il est toujours là.
Exactement. Et Kevin Vauclin à 1 minute 11, Jonas Vingegaard à 1 minute 17, et je vous le disais tout à l'heure, l'an passé au soir de la 7e étape, il était à 1 minute 15, donc on est à peu près dans le même timing.
Et Evenepoel, il était à combien l'année dernière?
Ah, écoute, je vais te dire ça dans quelques instants.
Facile, hein.
Au soir de la 7e étape, je vais te dire ça, mais ce qu'on peut déjà préciser, c'est que Mathieu Van Der Poel, qui était maillot jaune pour une seconde, est à 1:29 ce soir, donc il a pris un petit tir, notamment dans la deuxième montée, parce qu'il avait réussi à être au passage au premier tour à revenir. Oui. Tu as un chiffre, Jérôme?
33 secondes.
Il était à Remco au soir de Gevrey-Chambertin.
D'accord. Bon, il a
20 secondes d'écart.
20 secondes de plus. Mais c'est vrai,
la bordure,
on est à peu près
la bordure. Eh oui, la bordure de Lille, on va en parler un moment. La bordure de Lille.
Ah, bah, s'il reste dans le coup, on en parlera jusqu'à la fin de ce Tour de France. Remco, qu'on a vu quand même à la barre tout à l'heure, dans la montée finale, avant que les deux n'accélèrent. Et là, Jérôme, tu le disais tout à l'heure dans le direct, on a perdu un peu. Où est passé Remco Evenepoel, quoi? On a perdu Remco.
Non, mais il est là parce que rappelez-vous, quand Tim Wellens a mis son grand relais, les trois seuls qui ont réussi à tenir la roue, c'était Pogacar, Vingegaard et Remco Evenepoel. Donc à la pédale, il était bien aujourd'hui, il n'y a pas de problème. Il a tiré un petit peu le groupe, on ne sait pas vraiment pourquoi. Est-ce que c'était pour éviter que les poursuivants reviennent? Ça, je ne sais pas. Mais avant, il allait vite au sprint. Il avait une bonne pointe de vitesse, il avait un bon punch. Et il avait même dit il y a 2 ou 3 ans qu'il avait travaillé ça pour, si jamais il arrivait dans des petits groupes, pouvoir remporter des étapes. Et là, on voit que quand Tadej Pogacar lance son sprint, il se met debout, mais il y a rien qui se passe, quoi. On sent vraiment qu'il a perdu son punch depuis le début de l'année. Est-ce qu'il a vraiment remis l'accent sur les longs cols, les efforts au seuil, des efforts qui ressemblent au chrono, peut-être? Mais du coup, au chrono, en tout cas, ça marche. On verra sur les longs cols. Mais on sent qu'il a vraiment perdu du punch. Il a plus la giclette qu'il avait avant. Alors, GG en a parlé pendant le direct aussi. Il a perdu du poids. Faut trouver la bonne balance entre perdre suffisamment de poids pour mieux grimper, mais quand même garder un petit peu de puissance pour avoir de l'explosivité. Pour l'instant, il est plutôt parti côté montagne et il a perdu son explosivité.
Maître Pinault, avez-vous une explication autre que celle de Monsieur Coppel?
Maître Coppel étant mon maître absolu dans l'analyse des performances et de l'entraînement, je ne peux le contredire, parce que c'est effectivement ce qui se passe. Et il a plutôt misé sur le classement général des étapes. Pour l'instant, il y a une chose qui est sûre, c'est que dans les deux réactions qu'il a eues, celle d'avant-hier et celle d'aujourd'hui, il joue la troisième place. Je dirais même que si on fait une photographie aujourd'hui, il a autant de certitude que les deux au-dessus de lui en montagne sont plus forts, et sur le terrain ça se confirme, et autant il en a que derrière lui c'est le désert. Je vois pas comment il pourrait être inquiété s'il est régulier comme ça. Matteo Jorgensen devra peut-être un moment sacrifier pour essayer de faire aller de l'avant Vingegaard. Donc
quand on est double champion olympique,
je suis pas étonné qu'aujourd'hui il ait un peu roulé dès qu'il a vu la cassure, pourrait peut-être effectivement distancer les potentiels podiumables. Ouais.
Remco Evenepoel, le grand champion qu'il est, joue battu, joue pour le podium, joue pour la troisième place.
Il a bien changé, Remco Evenepoel. Il faisait des déclarations fracassantes, même avant le chrono, où il a dit qu'il allait peut-être pouvoir reprendre les 58 secondes sur Tadej Pogacar. Mais je crois qu'à un moment donné, tout Remco Evenepoel qu'il est, tout talentueux qu'il est, il se rend bien à l'évidence que que Tadej Pogacar et que Jonas Vingegaard sont au-dessus de lui. Ils sont au-dessus de lui. Et c'est un phénomène incroyable. Il passe presque pour un coureur de pas de seconde zone, c'est un peu violent, mais un coureur presque lambda, Remco Evenepoel, alors que c'est un phénomène générationnel. Remco Evenepoel, il gagnait toutes ses courses avec 10 minutes d'avance, il a gagné les championnats du monde chrono pro alors qu'il était encore espoir dernière année, il est double champion olympique, mais sur les grands tours, il y a Pogacar et Vingegaard encore devant lui.
Il a cette déclaration aux conférences de presse d'avant départ où il dit ma place et la troisième dans la hiérarchie, je vise un podium, mais à la pédale, ma place en est là. Et il sort d'un Dauphiné qui ne l'a pas rassuré. Donc pour l'instant, est-ce qu'il s'assure cette troisième place pour peut-être aller voir la deuxième? Pourquoi pas?
On l'écoute, Remco, parce qu'il a encore des ambitions. Vous voyez, vous êtes en train de le descendre, mais il a des ambitions.
Ah, c'est l'ambition
lundi,
de faire troisième du
il
tour.
Il veut se montrer lundi. Remco Evenepoel.
J'avais l'impression que le rythme, il était quand même, ça va, hein, c'était... à la fin avec Wellens, c'était hyper vite, mais en général, c'était encore ça va. Mais c'est clair que leur équipe, c'est une équipe de stars, aussi celle de Visma. Ce sont les deux équipes les plus fortes dans ce peloton. Donc c'est clair qu'eux, ils ont les clés dans leurs mains pour rouler pour la victoire ou pour laisser partir l'échappée ou ces choses-là. Donc c'est très impressionnant de voir. Mais faut rouler. Ce sont les concurrents, donc je dois essayer de les battre, mais c'est clair que c'est pas facile. J'ai l'impression que je suis en train de grandir, donc et de m'améliorer un petit peu. Donc j'espère que ça continue comme ça. Et puis il y a encore beaucoup de choses à faire. Je pense qu'aujourd'hui j'ai montré que j'ai grimpé bien, mais c'est clair qu'une bosse de 2 km c'est pas l'école de 27 km. Donc on va voir comment ça va se passer. Mais c'est clair, une étape comme celle de lundi, elle me plaît bien. Donc je vais mettre ma tête là-dessus et essayer de faire quelque chose là, oui.
assez lucide quand même sur ses capacités. Il n'a pas de langue de bois, je trouve.
C'est pas le genre de la maison. Il est lucide sur ses capacités. Il est aussi lucide sur les capacités de son équipe. Parce qu'indirectement, il parle de Visma Liesebike et du AE comme des grosses équipes. Et lui, il est quand même un peu esselé. Hein. Il fait quand même beaucoup d'efforts solo pour se replacer. Surtout qu'il a perdu Cataneo aujourd'hui, qui a abandonné.
Langue de main dans les étapes
dans la plaine. Donc ça, c'est quand même un coup dur pour Remco Evenepoel. Et il le dit très bien, c'est ce que je voulais dire tout à l'heure, c'est qu'attention, depuis le début du tour, là, on a eu des étapes très dures, mais c'était vraiment des bosses un peu punchy, c'est pas des cols de 15, 20 ou 25 kilomètres, et moi, j'enterrerai pas si vite un Lipovic pour la troisième place, qui va être plus à l'aise sur cols longs, Primoz Roglic, j'ai un peu plus de mal à y croire, mais un Lipovic, Oscar Honnelé, mais comme disait Jérôme tout à l'heure, il va peut-être devoir se sacrifier à un moment donné, mais un mec comme Lipovic, moi, je l'enterrerai pas tout de suite pour
et
le podium.
Oscar Honnelé non plus, effectivement.
Ah, il est régulier, Honnelé.
Très régulier, il a dit lui-même, je connais pas mes limites en fait. Ouais. Je connais pas mes limites. Alors lui, par contre, c'est l'inconnu des étapes de montagne en troisième semaine.
Ça, on verra dans la troisième semaine, on aura l'occasion de découvrir ses capacités. Un garçon qu'on connaît bien, en revanche, c'est Mathieu Van Der Poel. Tu en parlais tout à l'heure, Pierre-Yves, qui a donc abandonné son maillot jaune aujourd'hui. Il avait fait le constat hier. Hein, il savait de toute façon qu'avec une seconde d'avance sur Pogacar, et vu les efforts consentis tout au long de la semaine, ce serait cause perdue pour ce maillot jaune. 1,29 de retard pour Mathieu, qui est malgré tout, vous allez l'entendre, plutôt satisfait, et on sera à moins de cette première semaine de tour. Mathieu Van Der Poel.
Je sentais que hier, j'avais fait quand même. J'ai perdu beaucoup d'énergie. C'est sur un arrivée comme aujourd'hui, j'ai besoin de mes meilleures jambes, et je ne les avais pas, donc j'avais déjà. Après la première fois que j'allais pas garder le maillot. C'est un rêve de finalement, après quelques années, faire un bon tour de nouveau. Donc, je vais savourer les journées qui sont passées. Et on va essayer de récupérer un peu. Et peut-être dans la deuxième et troisième semaine, je vais tenter ma chance et essayer d'en gagner un autre étape encore.
Donc son Tour de France n'est pas fini quand même.
Non, c'est ce qui est bon à prendre, parce que Mathieu Van Der Poel, on sait, c'est pas les grands amours avec le Tour. Il est venu il y a quelques années passées, il avait fait des grands résultats. On s'attendait à ce qu'il enfile les étapes comme des perles, et finalement il s'était un peu perdu dans son amour pour le Tour. Là, il revient avec beaucoup d'ambition. Il le dit très bien. Il a beaucoup donné d'énergie hier pour ce maillot. Il était ravi hier avec un grand sourire de reprendre ce maillot, même si c'était pour une seconde. Puis moi, j'adore. Aujourd'hui, quelques-uns critiquent déjà sur les réseaux de dire oui, mais Alpecin de Kenin, que Mathieu Van Der Poel, il n'était pas bien, il aurait pu le sentir. Il a défendu son maillot jaune. Il a respecté ce maillot jaune. C'est-à-dire que quand on a le maillot jaune, eh ben on roule quand il y a une échappée. Et c'est ce qu'il a fait aujourd'hui. Même s'il a senti très vite qu'il n'avait pas les meilleures jambes, il s'est montré digne de son maillot et il a fait le maximum. Et ça, grand chapeau, parce que c'est un immense champion.
Non, mais il y a ça. Et pendant l'étape, tu peux pas savoir comment va se monter la première montée du mur, parce que Visma Liesebike ont roulé très vite. Mais si le scénario est pas comme ça, bah peut-être qu'il sauve un peu d'énergie sur la première montée et sur la deuxième montée. Bien c'est sûr. Pas ce qui peut se passer. Donc heureusement qu'ils ont roulé. C'est ce qu'il fallait faire. Fallait bien quand sûr. Même tenter leur chance.
Est-ce que le maillot vert peut devenir un objectif pour Mathieu Van Der Poel?
Bah avec Pogacar qui est l'immense favori, puisqu'il gagne chaque étape qui lui sont à sa portée. Pour l'instant, avec Binyam Girmay et lui, c'est les deux seuls qui pourront, à mon avis, contrecarrer les plans, parce que dès qu'il y aura des points entre deux bosses, deux cols, ou deux montées, ou sur une étape difficile, on voit mal comment Jonathan Milan pourrait y aller, et Mathieu Van Der Poel est capable. L'étape de lundi, Van Der Poel, sur un grand Van Der Poel, est capable d'être devant. Alors peut-être pas jusqu'à l'arrivée, sûrement pas jusqu'à l'arrivée, mais pendant un long moment. Il peut intégrer ces échappées très difficiles à intégrer, on l'a vu hier. Il a fini cramé, mais hier, il était devant.
Ça, c'est pour lundi. Et pour mercredi, il peut très bien aussi, dans une étape Toulouse...
Ah, mercredi, c'est son étape. Toulouse, mercredi, ouais, c'est son étape.
Ça peut lui correspondre. Et Jérôme Coppel, qui a vraiment très, très bien préparé cet after, va nous expliquer que Tadej Pogacar peut rentrer dans l'histoire et rattraper le titre.
Ouais, rattraper Eddy Merckx. Il n'y a que Eddy Merckx qui a ramené à Paris le maillot jaune, le maillot à pois et le maillot vert.
En 69.
Donc Tadej Pogacar, c'est pas impossible pour lui. L'année. Pour revenir à Mathieu Van Der Poel, avec son profil, il a presque encore 5 occasions d'ici Paris. Hein. Donc il pourrait quand même gagner quelques points et en tout cas aller chercher des victoires d'étape. Il y a encore 5 occasions pour les baroudeurs et les coureurs du profil de Mathieu Van Der Poel.
Quel professionnalisme. Moi, je dis chapeau.
Ça y est, il rentre dans son tour.
Ah, il rentre enfin dans son
tour. Il aura fallu une semaine.
Il mouche un peu moins que les premiers jours. 19h42, il y en a un qui mouche, c'est Novak Djokovic. Eric, on pensait qu'il avait retrouvé une deuxième jeunesse, mais c'est plus le cas, là. Hein.
Plus compliqué. Ouais, c'est compliqué pour Novak Djokovic. Je pense que Yannick Sinner s'est un peu relâché au début du troisième. Ça lui a coûté un break. Il s'est retrouvé à 0-3. Mais il a senti le danger. Mais on voit bien que Djokovic ne peut pas se déplacer normalement. Donc ça fait 4-3 Sinner. Il est au service italien. Et il vient de servir un ace. Et ça va faire 5-3 dans quelques secondes. Donc oui.
En plus, il a le soleil dans l'œil, Novak.
Oui, absolument. Bah, oui. Et je pense que c'est pour ça que Sinner s'est fait breaker aussi. Il avait le soleil dans les yeux quand il a commis ce jeu horrible. Enfin, horrible entre guillemets, hein, à ce niveau-là. Mais là, il y a balle de 5-3 pour Sinner. Donc je rappelle le score 6-3, 6-3, 4-3, balle de 5-3.
Très bien. On te retrouve dans quelques minutes. 19h43, nous aussi, on est là, toujours là, fidèle au poste, à Mur de Bretagne. Dans un instant, on évoque les Français. Kevin Vauclin, troisième au classement général, et son coéquipier, Evan Costiou, qui a vécu une journée de rêve aujourd'hui dans l'ascension de Mur de Bretagne. À tout de suite, en direct de Mur de Bretagne pour l'After Tour.
RMC, 19h20, l'After Tour.
Christophe Cessieux.
19h47 sur RMC, l'After Tour. Nous repartons à Wimbledon. Novak Djokovic qui est tout près de l'élimination en demi-finale. Il vient de sauver deux balles de match, Eric.
Ouais, il vient de sauver deux balles de match. Il vient de sauver sa mise en jeu. Donc Yannick Sinner mène 6-3, 6-3, 5-4. L'Italien qui va servir donc dans maintenant moins d'une minute pour se qualifier pour sa première finale à Wimbledon avec des retrouvailles assez excitantes, il faut bien le reconnaître, face à Carlos Alcaraz qui doit aussi ça dans le vestiaire.
Très bien, on revient vers toi dans un instant, même si on ne sait jamais. Hein, on ne sait jamais. Sinner a déjà eu des balles de match il n'y a pas si longtemps et il ne les a pas converties.
Je n'y crois pas une seconde.
Tu n'y crois pas une seconde. Tu croyais un peu plus pour Alcaraz à Roland-Garros. Nous sommes toujours en direct de Mur de Bretagne, où nous avons donc vécu cette magnifique étape avec des Français qui sont mieux comportés qu'hier. Il y en a 4 dans les 13 premiers de l'étape, Jérôme. Maître Coppel, c'est mieux aujourd'hui.
C'est très très bien. Mais je n'avais pas d'inquiétude pour eux. Hein. On avait dit hier, ce n'était pas une bonne étape pour eux. Ils se sont rattrapés aujourd'hui. On en a vu dans l'échappée. Alex Baudin, français, mais d'une équipe étrangère, était aussi échappé avec Ewan Costiou. Dans le final, Kevin Vauclin était là. Jordan Jegat fait une très belle étape. On en parle très peu du coureur de l'équipe Total Energy, mais il fait une très belle étape. 11e, Romain Grégoire, 13e. Voilà, ils sont là, ils sont dans le coup.
Il y a aussi eu une très très belle dernière montée d'Axel Laurens. Il en a manqué très très peu pour que Axel puisse basculer et arriver sur le replat et faire son sprint. Mais il était juste, et on l'a vu perdre mètre après mètre à 350, 400 mètres de la ligne, juste avant ce replat. Sinon, Axel aurait pu faire, l'exploit peut-être pas, mais faire une belle étape parce que fallait être costaud. Rappelons quand même qu'il est chez Ineos. Heureusement qu'il est là, Axel, aujourd'hui.
Oui, c'est vrai, parce que Ineos est complètement transparent sur ce tour. Celui qui n'est pas transparent, c'est Kevin Vauclin. 7e aujourd'hui de l'étape, à 2 secondes de Pogacar et de Vingegaard. Il conserve sa 3e place au classement général. Kevin Vauclin, qui est conscient quand même de ses limites, et il sait qu'il n'a pas encore atteint le haut niveau. Il lui manque encore un petit quelque chose. Qu'est-ce qu'il faut qu'il bosse, messieurs?
Il a que 24 ans, donc heureusement qu'il est pas encore à son top niveau. Faut qu'il bosse un peu tout, en fait. Il faudra qu'il progresse un petit peu en montagne, encore un petit peu en chrono. Faut vraiment qu'il travaille tout. Là, je pense que la priorité, peut-être que ça viendra l'année prochaine, c'est encore un petit peu plus le placement, si on oublie ce côté physique, parce que là, il est de nouveau pas dans la roue de Pogacar, Vingegaard et Remco Evenepoel, et c'est lui qui bouche le trou sur ce trio-là.
Il dépense beaucoup d'énergie.
Donc, il est très très fort, hein, Kevin Vauclin, parce que ça fait 2-3 étapes où le placement est un peu limite et il fait des efforts dont il pourrait bien se passer et il aurait pu peut-être encore plus jouer dans le final. Donc là, ça serait l'heure actuelle, vraiment maintenant, serait vraiment le placement. Quoi.
Écoutons Kevin Vauclin, 3e du classement général.
J'aime pas ce mot, c'est pas des extraterrestres, c'est juste des mecs qui ont des capacités de base très élevées et qui les exploitent à 100%. Il faut que je travaille encore plus. Voilà, j'ai encore de la marge sur pas mal de points, donc maintenant, faut que ce début de Tour de France me serve vraiment pour l'avenir. La notoriété dans le peloton me permet de me placer un peu plus à l'avant, donc ça me permet d'être à contact des meilleurs. L'année dernière, j'aurais pas pu être là juste parce que c'était plus difficile de se placer. Hein. De toute façon, dans un peloton, on le voit très bien, le placement, c'est le plus important. Et donc maintenant, après, j'ai juste à travailler et en jouant les premiers rôles à chaque fois, son corps, il s'améliore. C'est pour ça qu'on voit Jonas, Remco ou même Tadej s'améliorer d'année en année. Ils font des efforts max qu'on pourrait jamais faire à l'entraînement.
L'entraînement, il n'y a que ça de vrai pour Kevin Vauclin, s'il veut encore progresser encore un peu plus. Mais enfin, il est déjà très haut cette saison. Nous repartons à Wimbledon. Nouvelle balle de match. Il y en a un paquet même de balles de match pour Sinner face à Djoko, Eric.
La quatrième à venir pour Yannick Sinner qui mène 6-3, 6-3, 5-4, 40-15 à 40-0. Il a mis un revers dans le filet, mais il a de la marge, hein, vous le comprenez bien. Il en a eu deux sur le service précédent de Djokovic, ça l'a pas fait. Mais là, je pense qu'il va conclure dans quelques secondes face à un Djokovic malheureusement diminué. Je sais pas ce qu'il nous dira en conf de presse. Voilà, il va même pas aller chercher la balle. Le court est vide. Victoire de Yannick Sinner. 6-3, 6-3, 6-4. Il est heureux, l'Italien. Il a raison. Parce qu'il a fait le job. Il faut toujours se méfier d'une bête blessée. Et donc, on l'a, cette finale entre Carlos Alcaraz et Yannick Sinner. Yannick Sinner qui dit quelques mots sympas à Novak Djokovic. Il a compris, il a vu ce qui s'était passé pendant toute cette demi-finale. Mais il a raison d'être heureux parce qu'il va pouvoir peut-être prendre sa revanche sur l'Espagnol. On se régale d'avance.
Exactement, finale donc dimanche à 17h pour les garçons entre Sinner et Alcaraz, la revanche de la dernière finale de Roland-Garros, en espérant se régaler autant. Et puis demain, la finale dames, là aussi 17h entre Anisimova et Świątek, 19h52. On peut pas se quitter sans rendre un bel hommage à un Breton aujourd'hui qui nous a régalé, Wayne Kostiou,
qui s'est fait. Ah oui, tu parlais de Bernard Hinault.
Moi aussi.
Ah non, mais Bernard Hinault, oui, évidemment.
Bien sûr. Dans grand hommage, non, la nouvelle génération.
Mais la nouvelle Wayne génération. Kostiou, peut-être sûr. Le futur Bernard Hinault, c'est jamais.
Ah non.
Tu veux, bon, c'est vrai qu'on.
Il y en a eu tellement.
Depuis 40 ans, on
et Bernard Kostiou, ça n'avait pas terrible.
Par contre, Ewen, magnifique prénom.
Ah, c'est
le plus beau prénom du monde.
Prénom de ton fils, me semble-t-il. Ewen Kostiou, mais il est plus doué dans les études que dans le vélo, ton fils.
Il est doué partout, comme son père.
Sauf au permis, a priori.
Ewen Kostiou, qui a donc franchi la ligne à Mur de Bretagne en tête. Le problème, c'est qu'il restait un tour. On l'écoute.
Franchement, je crois que c'était pas prévu à la base que je sois devant, mais passer Mur de Bretagne seul en tête, comme ça, c'est, je crois qu'il pouvait rien m'arriver de mieux aujourd'hui. Avec mon public, mes amis, ma copine, mes parents, tout ça, c'était incroyable. Ouais.
Incroyable journée de rêve pour Ewen Kostiou, et oui. Encore une fois les Arkéa montrent qu'ils sont très costauds sur ce tour.
Hein. Oui, franchement, comme le précisait tout à l'heure le président Lapartien qui était avec nous invité, ils étaient autant que les Visma Lisebike, ils étaient quatre dans le dernier groupe. C'est quand même assez incroyable, quoi. Ils ont fait une
dans le premier groupe, tu veux dire.
Dans le dernier groupe à survivre.
Oui, ils étaient quatre. Non, ils font un très beau Tour de France, et Ewen Kostiou quasiment sur ses routes. Hein, là, il a dû reprendre un peu d'énergie. 7 jours de course, tu commences un peu à fatiguer, mais là, il a repris du gaz pour les deux dernières semaines.
Très bien. Demain, 8e étape, Jérôme, ça va donner quoi?
Sprint. Okay. Attention, finale.
Ça c'est un sprint. Ouais. Ça, c'est...
au 7-32-16.
Vous êtes 7-32-16. Bon, monsieur.
Qu'est-ce que tu veux que je te dise? Ça fait 3 jours que tu me demandes rien. Quatrième, tu m'en demandes. Sprint, attention, finale très très dangereux, hein, dans les derniers kilomètres. Par contre, on aura un rond-point à moins de 3 kilomètres de l'arrivée. On va faire un demi-tour complet avant d'avoir deux ronds-points à prendre par la droite et une dernière ligne droite finale. Très dangereux le final demain.
Vous êtes beau, messieurs. Vous êtes beau.
On lui met la Mayenne, mais juste la Mayenne.
La Mayenne, ce sera demain. Bonne soirée dans un instant. Simon Dutin est là pour l'After Foot. On se retrouve demain à 14h pour la 8e étape de ce Tour de France. Bonne soirée et à demain.
RMC, l'After Tour.